Vous aimez ce podcast ? Soutenez-le grâce à l'option Acast Supporter. C'est vous qui choisissez combien vous donnez et à quelle fréquence. Cliquez simplement sur le lien dans la description du podcast pour le soutenir dès à présent.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
I'll be right behind you, Josephine. I won't leave you waiting in between.
Je vous souhaite la bienvenue sur le podcast Les enfants vont bien. Ici, vous entendrez parler de PMA à l'étranger, de GPA, de conception artisanale, d'adoption et de bien d'autres termes qui accompagnent la conception de nos familles. Vous entendrez aussi, et surtout, des familles homoparentales, coparentales, monoparentales par choix ou de fait, adoptantes, nous raconter leur parcours extraordinaire, au sens littéral du terme, vers la parentalité. Parce qu'en France, le chemin est bien avancé mais n'est pas encore abouti, je vous propose d'écouter des témoignages de notre quotidien qui vont vous rassurer sur le fait que nos enfants vont bien. Vous écoutez l'épisode 40 de la saison 3 du podcast Les enfants vont bien. Vous êtes nombreux à venir vers moi pour me poser des questions auxquelles je ne peux vous apporter comme seule réponse que notre expérience. C'est assez frustrant parce que je me suis sentie plusieurs fois démunie en n'ayant aucune solution à vous apporter parce que notre histoire n'est pas la vôtre. Et puis il y a des sujets très importants à traiter qui nécessitent l'éclairage d'un professionnel. Alors je me suis à nouveau rapprochée de Natacha Butzbach, at la curiosité bienveillante sur Instagram, psychologue en périnatalité, pour traiter le sujet de cet épisode. Comment raconter son histoire à son enfant ? Parce que oui, ce sujet arrivera sur la table à un moment ou à un autre, et que l'on est plus ou moins prêt à accueillir les questions de son enfant et à se livrer, plus ou moins à l'aise avec certains points de nos parcours. Natacha nous livre ses clés, dédramatise les situations que vous pouvez rencontrer et surtout valide le fait que l'on puisse ne pas répondre aux questions de nos enfants dans la minute où elles nous sont posées. Nous avons établi ensemble que nous pourrions répondre à vos questions dans des épisodes à fréquence régulière. À la suite de cet épisode, je vais donc ouvrir une boîte à questions sur Instagram et nous choisirons dans vos propositions le thème du prochain épisode. D'ici là, j'espère déjà vous donner l'envie de nous suggérer des sujets d'épisodes à l'écoute de celui-ci. Je vous souhaite une bonne écoute.
Bonjour Natacha.
Bonjour Constance.
Je te remercie beaucoup de t'être rendue disponible pour cet enregistrement. Je te sollicite encore une fois parce que je sais qu'on a plein de questions, nous les parents de famille homoparentale. Aujourd'hui, j'ai un thème précis, mais on a vu ensemble pour qu'on puisse faire une collecte, on va dire, de questions de mes auditeurs et de mes followers, on va dire, pour que dorénavant on enregistre des épisodes avec toi, donc de façon un peu plus régulière, qui tourneront autour des questions, de réponses aux questions qui auront été posées sur Instagram. Est-ce que pour commencer, tu peux te représenter pour la troisième fois?
Oui, bah pas de problème, c'est normal. Alors moi, je m'appelle Natacha Butzbach, je suis psychologue, alors spécialisée en périnatalité et accompagnement parental. J'ai un compte Instagram qui s'appelle La Curiosité Bienveillante. Donc, je traite de tout ce qui est sujet autour de la parentalité et de la périnate. Et je suis maman queer, maman solo, par choix. Je traite aussi de tous les sujets qui a trait à tout ce qui est composition familiale alternative, même si j'aime pas trop dire ça comme ça.
Extraordinaire.
C'est ça, c'est plus joli.
Merci beaucoup, Natacha. Aujourd'hui, je t'ai sollicité parce que j'ai des questions qui reviennent régulièrement sur le comment raconter son histoire à son enfant comment raconter sa conception et surtout quand raconter quoi. Est-ce que pour commencer, tu peux me dire ou nous dire comment aborder l'histoire de l'enfant, l'histoire de la conception de l'enfant?
Alors moi, j'ai tendance à parler tout d'abord et avant toute chose de la posture qu'on a par rapport à la démarche qu'on a faite. Alors il paraît assez évident de dire que si on a fait un choix de parentalité, en homoparentalité, en monoparentalité via la PMA ou la GPA, on est plutôt à l'aise avec le projet. Mais en fait, pour autant, il peut y avoir des questions qui peuvent toujours être un petit peu, qui peuvent nous titiller, quoi. Le choix du fait de faire un donneur anonyme ou pas, le fait du lien avec la personne qui aurait pu porter l'enfant, etc., etc. Donc la question surtout, c'est de se questionner sur quels sont les petits points qui nous chatouillent quand même un petit peu. Est-ce que le fait que le donneur soit anonyme, ça nous chatouille un peu? Et est-ce que c'est un sujet qui est un petit peu compliqué? Est-ce que on a nous-mêmes peur de certaines questions que les gens pourraient nous poser ou être gênés par rapport à des remarques? Et se poser ces questions-là permettront déjà de cibler ce qui peut faire écho de manière un petit peu difficile pour nous.
D'accord.
Par exemple, en effet, dans un couple où il n'y a pas de parents hommes, se dire, est-ce que le jour où des questions viennent par rapport à ça, est-ce que je vais avoir du mal à l'expliquer, ou est-ce que j'aurai du mal à expliquer le choix de l'anonymat, ou est-ce que je vais avoir du mal à justifier, entre guillemets, mes décisions? Parce que clairement, alors que par rapport à des proches ou par rapport à des connaissances, on n'a pas besoin de se justifier, hein, de toute façon, dans tous les cas. Par rapport aux enfants, clairement, il y a un jour où on va avoir, entre guillemets, à se justifier.
Oui, et je crois que c'est ça qu'on craint tous. Enfin, qu'on craint, alors, c'est peut-être pas le bon mot, mais en tout cas, on sait qu'un jour, la question, elle va se poser et qu'il va falloir y répondre.
Oui, c'est ça. Et la question, c'est de se dire, OK, en fait, quel rapport j'ai et quels sont les points qui me font peur dans cette question-là? Et quand on met déjà le doigt sur « en fait, je me rends compte que je suis pas très à l'aise avec ça, que peut-être que rétrospectivement, j'aurais fait différemment, peut-être que finalement, j'ai des craintes, etc. par rapport à ceci ou par cela », eh ben, ça peut être des pistes à investiguer. Concrètement, il y a un contexte social dans lequel on est, qui est très fort, qui va être de dire, en France en tout cas, qui est très très fort au présent, c'est « les enfants ont besoin de deux parents de sexe opposé pour grandir sereinement ». Déjà ce truc-là, et ça veut dire que dès qu'il y a un enfant qui ne vit pas ce modèle-là, eh ben on va considérer que c'est une tare pour lui, que c'est une grande perte, que c'est une horreur, etc. Et même si on sait, même si intellectuellement, rationnellement, on sait que ce n'est pas le cas, on va quand même avoir des empreintes émotionnelles de ça, parce qu'en fait, on sait que dès qu'il peut y avoir des questionnements de la part des enfants, ou dès qu'il peut y avoir des petits doutes, des petits machins, on va en fait se dire, ah, mais en fait, peut-être qu'ils avaient raison, ces gens-là. Peut-être que c'est vrai qu'il y avait besoin d'un truc différent et que moi, je lui ai pas apporté ça et que donc, potentiellement, j'ai flingué la vie de mon enfant.
Oui, mais c'est vrai que c'est souvent ça qui nous taraude, hein. C'est qu'en même temps, on a un peu de mal à admettre que on puisse avoir ces failles-là, entre guillemets, parce que c'est pas des failles, enfin on en fait une force en fait de nos familles, mais finalement la société en fait une faille, et du coup dès que ça vrille, et le risque c'est que on se serve de ça quoi.
C'est ça, et la grosse peur c'est de se dire vous voyez vos enfants ils vont pas bien, etc. Ouais. Et ils posent des questions par rapport à leurs origines, etc. Alors moi je tiens quand même à rappeler que dans tous les cas les enfants posent des questions par rapport à leurs origines. Ok, je ne connais plus le pourcentage exact des naissances en France où en réalité l'enfant dans le couple n'est pas issu des deux parents.
Ouais, je crois qu'il est.
Qui l'ont élevé. Je crois qu'il y a au moins 6% ou quelque chose comme ça. Ouais. C'est assez important quand même. Ouais. Et que l'histoire familiale, elle est questionnée dans tous les cas. Ouais. Et il y a des tabous dans toutes les familles, il y a des zones floues dans quasiment toutes les familles.
Ouais, c'est vrai.
Généralement, par rapport aux parents et par rapport aux gènes, il n'y a pas trop de tabous dans les familles homo, en fait. Et il y a eu des gros tabous par rapport aux dons anonymes. Dans les années 80-90, parce que les protocoles à l'époque, surtout en France, étaient catastrophiques.
Oui.
On a vu passer, il y a deux ans, je crois, c'était il y a deux ou presque trois ans, deux ans et demi en tout cas, je me souviens, en 2019, des reportages là-dessus, c'est là, les enfants issus du don, et c'était des trucs horribles qui étaient arrivés. En gros, c'est des gynécos qui étaient des donneurs par centaines. Oui. Après, on disait qu'il fallait cacher aux enfants qu'ils avaient été issus d'un don. Et en fait, c'est tous ces trucs-là qui ont été faits, donc, par les humains, en disant, non, cachez surtout à vos enfants qui sont issus d'un don, ça posera pas de problème, qui, en fait, finalement, les tabous dans le secret de famille ne sont jamais gardés. Les enfants apprennent ça à 30 ans passés, et ça fait une vraie décompensation psychique, parce que leur vie entière a été construite sur un mensonge. Et donc, il y a un peu cette croyance que c'est ce qui va se reproduire dans les familles homoparentales ou monoparentales à grande échelle, alors qu'en réalité, le contexte est complètement différent aujourd'hui.
Bah, surtout que nous, on a bien notion de tout ça. On le sait qu'il faut être transparent avec les enfants, d'autant que nous, ça se voit, en fait, que forcément, on n'a pas pu concevoir.
C'est ça.
Donc, voilà, on va jouer la transparence.
Ouais, et donc, concrètement, c'est le gros avantage, déjà, c'est qu'il y a un truc qui est déjà inhérent, c'est que forcément, puisqu'il n'y a pas de gamètes différentes dans le couple, eh ben, il y a eu forcément un truc tierce. Et alors là, on va y venir à ta première question, c'est comment est-ce qu'on commence et qu'est-ce qu'on fait? Moi, j'ai tendance à dire, en fait, de base, déjà, parler de la démarche depuis toujours, depuis le début, et en fait en parler spontanément et parfois même en un peu en rire et en discuter de manière totalement libérée avec les proches. Alors en espérant que les proches puissent accepter et tolérer ce genre de truc, mais je présume qu'on a toujours des amis, hein, que ce soit des autres familles ou parentales ou même des amis très ouverts d'esprit avec qui on peut en discuter sans que ce soit un tabou, notamment par rapport à je sais qu'il y a des familles où par exemple les enfants sont très différents par rapport à la couleur de peau ou par rapport à un aspect physique qui est clairement pas attrait aux parents biologiques et des choses comme ça, de dire bah oui, ça c'est sûr que c'est pas chez nous, ça vient du donneur et c'est chouette, ça apporte de la diversité dans la famille, ou de faire des remarques comme ça en fait qui vont toujours faire que ce truc là existe.
Ouais, ça va dédramatiser un peu.
Ouais, de dédramatiser et que c'est pas un tabou et qu'en fait on prend pas genre juste un temps pour en parler, genre juste bah non, c'est là en fait, et de discuter en fait et surtout de pouvoir aussi se préparer. Moi, j'ai toujours tendance à dire qu'il faut préparer de la répartie pour les enfants. C'est que on a tendance à se dire que bah ils vont être confrontés à des trucs qui vont vraiment être durs et à s'arrêter là. Alors c'est vrai qu'ils vont recevoir des remarques qui sont pénibles en fait. Mmh. Et comme nous en tant que parents, on va recevoir des remarques qui sont pénibles, eux aussi ils vont en recevoir. Ils vont avoir des gens qui vont dire alors, elle est où ta maman dans un couple de deux hommes, ou alors il est où ton papa dans un couple de deux femmes, ou des trucs comme ça. Et souvent les enfants ils vont dire bah j'en ai pas. En fait, on s'attend à ce que les juges disent juste bah non, tu dis que t'as pas de papa et tout va bien. En fait, moi j'ai tendance à dire bah dites en effet, il ou elle peut dire je n'ai pas de papa ou je n'ai pas de maman, mais dire en fait j'ai de papa, j'ai de maman, j'ai une grand-mère, un oncle, une tante. En gros, en fait, de faire énumérer, de dire. Si quelqu'un te pose la question, pourquoi il te manque, entre guillemets, un parent, parce qu'il lui manque pas un parent, c'est juste qu'il n'a pas un des deux parents conçu dans la société par la famille nucléaire, tout ce qu'il a autour. Ça veut dire que ça mettra en évidence tout ce qu'il a plutôt que ce qu'il n'a pas. Le problème qu'il y a, c'est que les gens vont toujours percevoir le manque, mais en gros, la réponse vraiment que j'ai tendance à proposer, c'est toujours driller les enfants à dire tout ce qu'ils ont. J'ai une tante, une mère, une grand-mère, des gens très proches. J'ai et vraiment d'être vraiment dans plus dans le, en fait, dans la balance de, bah certains ont un papa, une maman. Moi j'ai une maman et bam 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 plein de gens à côté en fait. Donc fous-moi bien la paix. J'ai suffisamment de personnes. Et en gros c'est vraiment ça. Et généralement les gens ils vont pas surenchérir. Qu'est-ce que tu veux? Ils vont pas surenchérir face à un enfant qui répond ça.
Ouais, non, mais c'est sûr. Et au contraire, voilà. Ça peut même être déstabilisant pour eux.
C'est ça, tout à fait. Et donc, ce côté-là est déjà hyper important. Et donc, déjà, par rapport à l'enfant, en parler régulièrement, lui donner des outils en disant, bah oui, en fait, voilà, quand il commence à parler, de pouvoir expliquer tout ça. Et après, c'est vrai qu'il y a tout ce côté raconter, en fait, raconter à son enfant. Et il n'y a pas besoin de moment spécifique dédié à ça. J'ai tendance à dire, parfois, c'est rigolo de parler, en effet, soit des différences physiques qu'on peut constater chez son enfant par rapport à soi, quand on est soi-même la mère biologique, ou bref, hein, voilà, ou le parent biologique, de pouvoir évoquer des rappels, en fait, par rapport à ça, et dire, il y a des moments où on y pense, forcément qu'il y a des moments où on pense au protocole qu'on a fait et à ce que ça a impliqué, de dire, bah tu sais, par exemple, il y a un an, il y a deux ans, il y a trois ans, parce que les dates, on les connaît. Hein, quand les jours de l'année passent, je suppose que autant toi que moi, on connaît les dates auxquelles se sont passées les choses. Bah, tu sais, par exemple, là, ça me fait rigoler parce que ça fait 3 ans, 4 ans, 5 ans. Et ben, on prenait contact avec telle personne pour ça. Et on peut parler de ça comme ça, depuis tout petit, en fait. Déjà bébé, te dire, dans sa première année de vie, bah, le bébé, il va naître. Alors, je prends l'histoire de ma fille, hein, le 18 décembre. Et ben, je sais que, je me souviens que quand, le 29 mars est arrivé, l'année suivante, c'est le jour où j'ai été inséminée. Je lui ai dit, ah, c'est trop drôle. Il y a pile un an, là, ça fait 3 mois que t'es dans mes bras, et il y a pile un an, je me suis fait inséminer pour que tu grandisses dans mon ventre. Et en fait, ces trucs-là.
Il faut en faire une fête.
ce maillage-là, en fait, ce maillage de date, ce maillage de vie, en fait, moi, j'ai tendance à dire, mais on peut en parler depuis toujours, en fait. Et puis, on parlait quand l'enfant est là, on parlait avec d'autres personnes quand l'enfant est là et présent dans la pièce, depuis tout petit. Ce qui fait qu'en fait, il n'y a pas de découverte. C'est pas un truc nouveau. C'est pas quelque chose qui va d'un coup survenir dans l'histoire. Et c'est pas genre une révélation qu'on va faire quand l'enfant a 3, 4 ans ou 5 ans, 6 ans, parce que voilà, il y a un truc à dire, quoi. Mm-hmm. Même si, dans tous les cas, il y a un moment où un peu, il y a un peu la pièce qui tombe quand même. Il y a un peu ce côté genre, ouais. Attends.
On prend conscience.
On me dit ça depuis le début, mais ça veut dire que réellement, en fait, il y a un truc qui est pas pareil que tout le monde. Mm-hmm. Et qui est différent, en fait, que tout le monde. Et c'est vrai, techniquement, il y a des trucs qui sont différents. Mais en fait, c'est pas, moi j'ai tendance à dire, c'est pas pire que quand on découvre réellement à 6, 7, 8, 9 ou 10 ans qu'en fait son père, par exemple, hein, parce que c'est malheureusement ce qui se passe le plus, son père a délibérément choisi de partir quand il a découvert que la grossesse était en cours, quoi.
Oui.
Et que c'est genre juste un vrai choix, c'est pas genre juste,
ouais,
ah
ça.
Oui, ma mère a été abandonnée, bah c'est pas cool. Non, là c'est un vrai choix de quelqu'un qui a décidé de se barrer. Et c'est la même chose, en fait, en gros, il va y avoir un moment la pièce qui tombe, qui va dire, oh ok, donc ça veut dire ça. Bon, bah, je le savais, mais là, je prends l'ampleur de ce que ça a, parce que c'est aussi une image par rapport à l'image sociale, et au fait que, mine de rien, dans les représentations aujourd'hui, même si ça tend à changer avec la littérature jeunesse, même si ça tend à changer avec ce qu'on voit sur Instagram, etc., pour les enfants, ce qu'on voit dans tous les bouquins, où vraiment il y a des exceptions, mais il y en a quand même pas beaucoup, hein, c'est papa-maman, quoi. Ouais. Donc ça veut dire que forcément il y a des questions qui vont se poser par rapport à ça.
Ouais.
Et donc ça implique en fait qu'il va y avoir des questionnements et qu'on puisse chercher les autres représentations, avoir en effet des personnes avec qui on peut parler d'autres représentations et permettre en fait de pouvoir fournir en fait aux enfants d'autres modèles. Même si faut pas se leurrer, même si on fournit d'autres modèles, les enfants sont abreuvés par le système hétéronormatif.
Oui, complètement.
Et la famille nucléaire.
Moi, mes filles jouent au papa et à la maman en permanence.
Bien sûr, et la mienne aussi, tu vois. Je veux dire, et depuis qu'elle a, la première fois que ça m'a choquée, c'était ça. Elle avait rangé 3 bouteilles ensemble, et la plus grande c'était le papa, la moyenne la maman, et la petite c'était le bébé. Et moi j'étais là genre, oh, c'est pas vrai, on y est déjà. Ça a déjà été intériorisé.
Ouais, c'est ça.
Ça a déjà été intériorisé alors qu'elle avait moins de 2 ans. Ce que je trouve dingue. Mais en fait c'est les bouquins. Dans tous les bouquins que tu peux trouver, ben en fait c'est ça en fait. C'est papa, maman et enfant. Donc forcément, les enfants intériorisent. Donc déjà, ça peut rassurer tous les gens de la manif pour tous. Ne vous inquiétez pas, nos enfants ont ces dormes-là bien acquises depuis le début. Hein. Pas de doute, pas de doute. Hein. Et c'est pour ça que j'ai tendance à le rappeler, c'est il n'y a pas besoin d'une figure paternelle ou maternelle s'il n'y en a pas dans la famille, parce que autour de nous, il y a 48% d'hommes et 52% de femmes. Donc en fait, si les enfants et ont besoin de se lier à quelqu'un en particularité, et souvent, c'est pas forcément en fonction du genre, hein, enlever ça de la tête, et ben, ils vont aller se lier. Et en effet, il y a des enfants qui vont avoir besoin de se lier à d'autres personnes plus fort, parce qu'il y a quelque chose chez cette personne qui émane et qui permet d'être plus complémentaire avec ce qui se vit par ailleurs. Et c'est très bien, en fait, les enfants ont cette capacité d'aller chercher des ressources à l'extérieur, et que ce soit dans un couple hétéro, dans un couple homo, ou dans une famille monoparentale.
Oui, et c'est, ils vont chercher de la diversité en fait.
Absolument, absolument. Et en fait, et ça touche toutes les familles, dans tous les cas, à part que dans les couples hétéros, c'est pas un questionnement, on se pose pas la question.
Oui, on va pas faire, on va pas regarder le ratio de personnes genrées masculines et de personnes féminines dans l'entourage de l'enfant.
Ouais. Exactement, tout à fait. Ouais. Et donc il y a vraiment ce truc-là qui est intéressant de vraiment en parler, en dire. Après il y a des supports qui existent, hein. Il y a des bouquins qui parlent de la PMA, il y a des bouquins qui parlent des familles homoparentales, etc. Et c'est toujours super chouette de les avoir, parce qu'en effet ça peut être un outil qu'on peut utiliser pour parler concrètement des choses, pour dire bah tiens tu vois ça on l'a vécu pas comme ça aussi, tiens ça moi je l'ai vécu différemment. Et ça peut être aussi un outil qu'on peut faire apporter pour les enfants scolarisés en classe, pour parler en fait de ce sujet-là, pour permettre de faire en sorte que le cercle social proche des enfants comprenne ce qu'ils vivent, de manière à éviter aussi au fur et à mesure les questions un peu indécentes, entre guillemets, hein, auxquelles ils peuvent être confrontés.
Ouais.
Mais en gros, concrètement, c'est ça. L'histoire, en fait, elle se construit vraiment tous les jours, et pas avoir peur, justement, de dire les choses et de dire « Ah bah tiens, ouais, il y a un an, il y a 2 ans, il y a 3 ans, oh, ah c'est fou ça, il y a des fois où je te regarde et je me dis « C'est fou, c'est ma fille, c'est vraiment ça, elle est blonde avec des cheveux hyper lisse et hyper fin, C'est pas dans la famille, quoi. C'est pas dans la famille. Et je lui dis, mais c'est fou. Des cheveux comme ça, c'est magnifique, c'est incroyable. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu des cheveux aussi incroyables que les tiens, etc. Et ils sont magnifiques. Et ça, c'est vraiment un cadeau que ton donneur a fait, quoi. Et voilà. Et par exemple, je lui dis en rigolant, probablement que le premier pays qu'on irait visiter, c'est la Danemark, parce que bah, c'est le pays de son géniteur et c'est un peu rigolo d'aller visiter ça. Et donc, d'en faire un truc au quotidien, il existe, en fait. Cette personne existe.
Ouais.
C'est pas un problème qu'elle existe. Cette personne existe. Et juste, on lui donne la place qu'elle a. C'est un géniteur. Elle a juste donné ses gènes.
Et c'est vrai qu'on s'est attaché, nous, tu vois, par rapport notamment au Danemark, à emmener des filles régulièrement. Pas trop parce que ça a un coût quand même, mais les emmener régulièrement en leur disant voilà, c'est le pays de votre donneur, donc c'est une partie de votre culture quelque part intériorisée, quoi.
Ouais, c'est ça. On fera un voyage si tu veux un jour en groupe.
Mais ouais, on va faire des bus parce que je pense qu'on n'est pas les seuls.
On est beaucoup à venir du Danemark en sachant qu'en plus, on sait même pas si des gens là-bas qui ont donné au Danemark
sont
réellement des gens danois, parce qu'en fait il y aura très bien des étudiants étrangers qui ont pu donner aussi, tu vois, bien sûr. Donc en fait c'est ça qui me fait un peu marrer aussi, mais bon,
bien sûr.
C'est un truc, mais en fait en gros c'est ça, et c'est de faire une histoire en fait avec cette histoire de don, et donc de pas en faire un truc huge, mais juste un truc de la vie quotidienne.
Ouais, mais ça c'est valable pour les petits, tu vois, pour les, je dirais, jusqu'à 7-8 ans. Moi, ma fille de 9 ans, là, ça y est, elle commence à s'interroger de façon un peu plus poussée, quoi. Et le donneur, comment ça se fait, comment ça a marché, comment vous avez fait pour avoir accès à ça, enfin, comment vous avez fait votre PMA, vous avez été où, enfin, tu vois, les questions, elles fusent un peu plus, quoi.
Alors, la question que je me pose, c'est, est-ce que toi, t'es gênée de raconter les détails de ce que ça implique?
Non, absolument pas. Moi, ça ne me pose aucun problème.
Mais au niveau reproducteur, tu vois, c'est un truc dont je me rends compte très fort, c'est que, il n'y a pas de mépris dans ce que je vais dire, hein, mais c'est les enfants très citadins ne sont pas très fort confrontés à ce qui se passe dans la nature. Donc le rapport à la mort, le rapport à la reproduction, je vois vraiment il y a une très grosse différence. Dans mon cas, j'ai été une citadine toute ma vie et là je ne le suis plus, et donc ma fille ne l'est pas non plus, elle est confrontée à la mort. Tu sais, dans les champs, tu vois des animaux morts très souvent, tout le temps. Et alors la reproduction, moi je suis passionnée d'élevage équin. Elle connaît comment se passe la reproduction des différents animaux, hein, pas se le cacher. Et donc, quand elle me pose la question, mais du coup, les humains, c'est un peu pareil. Oui,
c'est un peu pareil. Oui, voilà.
Donc, en fait, clairement, on a vu des. Et c'est marrant parce que du coup, on a vu des vidéos de reportages équins sur l'insémination. L'insémination qui se passe chez les juments, chez les vaches, enfin voilà. Et ben, je lui dis, tu vois, c'est exactement le même principe qui s'est passé pour moi, pour les femmes, en fait. Et donc, on a tendance à un peu mettre. Un peu les enfants dans la ouate, en disant ah ben non, faut peut-être pas aborder ces questions-là maintenant. Mais en fait, tant que les questions se posent, on y répond en fait.
Oui, il faut laisser venir l'enfant en fait.
Oui, c'est ça. Après, il y a des livres qui abordent déjà, qui sont évocateurs, mais qui sont pas tout à fait précis et qui sont très bien aussi. Et au moment où ils posent des questions pour aller plus loin, tu réponds au plus loin.
D'accord.
Très simplement.
Ils se posent d'autres questions. Enfin, tu vois, moi je sais que ma fille, quand elle était petite, la grande, elle avait tendance, enfin. Du fait de la normalisation de la société, a appelé Aude papa.
Okay.
Ma femme, elle l'appelait papa. Elle l'a fait pendant peut-être bien 2 mois, tu vois. Alors, on lui expliquait à chaque fois, mais non, c'est maman. Mais maman, elle a la place du deuxième parent, comme le papa peut avoir la place du deuxième parent. Je dis deuxième, évidemment, c'est pas... Il n'y a pas de notion de hiérarchie.
Non, bien sûr, mais c'est juste un parent de quoi.
Voilà. Et je sais que ça peut arriver, et je sais qu'il y a des enfants qui réclament cette figure qu'ils n'ont pas.
Oui.
Comment, dans ce cas-là, on doit réagir? Qu'est-ce qu'on doit répondre?
En fait, la question, c'est surtout de se demander, quand ils réclament un parent, ils vont réclamer quelque chose, en fait, derrière ça. C'est pas genre juste, ils réclament un parent, parce qu'ils savent pas ce que c'est que d'avoir ce parent-là.
Oui, mais ils réclament de la normalité, j'ai presque envie de dire, que la société appelle normale.
Il y a ce côté, en effet, norme sociale. C'est qu'en fait, moi, manifestement, ma famille ne rentre pas dans les normes sociales et c'est particulier. Et parfois, dans certains endroits, on fait peser le poids de la norme sociale plus fort. Parce qu'il n'y a aucun effort de la part des encadrements scolaires, notamment, pour faire des efforts par rapport à comment est-ce qu'on appelle les parents, comment est-ce que machin. Donc, en fait, il y a ça. Mais il y a aussi la représentation que ça a. En fait, donc, moi, j'ai tendance à dire, quand un enfant demande moi je voudrais une maman ou moi je voudrais un papa, c'est demander tiens, qu'est-ce que tu penses que ça fait des papas ou qu'est-ce que tu penses que ça fait une maman, et donc en fait de parce que généralement quand les enfants posent cette question-là, c'est qu'ils savent de déjà bien s'exprimer, hein, et qu'ils ont une représentation
complètement déjà
assez claire, eh ben, c'est de leur demander de s'exprimer sur, OK, qu'est-ce que tu penses que ça t'apporterait d'avoir une maman? Qu'est-ce que tu penses que ça t'apporterait d'avoir un papa? Et de questionner, du coup, vraiment, en fait, quelles sont leurs perspectives sur la question. Mmh. Et de vraiment aller chercher le, OK, ils demandent quelque chose, mais c'est quoi qu'ils demandent? Et en effet, en demandant aux enfants précisément, et pas en restant arc-bouté sur ses craintes à soi, en disant « Oh merde, ça y est, ben on y est, voilà, c'est ce dont j'avais peur. » Il demande un papa alors qu'il peut pas lui en donner un, ou il demande une maman alors que clairement il y en a pas. En plus, si c'est une fille, il n'y a pas de fille maternelle, mon Dieu, ça veut dire que elle va se retrouver démunie par rapport au truc de fille, etc. Voilà. Mm-hmm. En fait, c'est pas forcément le cas du tout. Ça peut être, en effet, très normatif de dire, OK, en fait, moi, je me rends compte que toutes mes copains ou toutes mes copines ont un papa et une maman, et moi, j'en ai pas. Je trouve ça pas juste de dire, ah, OK, en fait, donc, tu penses que, du coup, c'est une perte de pas avoir ça et de faire des questionnaires, en fait. Ah, bah oui, franchement, moi, il manque un truc. OK, et qu'est-ce qui te manque? Et, en fait, d'aller argumenter, d'aller chercher, en fait, derrière, sans essayer de les convaincre de quoi que ce soit, sans leur faire passer forcément un message, mais genre juste, au moins, d'aller chercher ce qu'il y a derrière. C'est quoi, en fait, la vraie question qu'il y a derrière? C'est quoi la sensation de manque, peut-être, qu'il peut y avoir, en effet? Et peut-être que la sensation de manque, etc., ça n'a rien à voir avec, en fait, la représentation père, de ce qu'il y a derrière un père ou une mère. Et d'ailleurs, c'est souvent pas le cas. C'est quelque chose, peut-être, d'autre. Peut-être que c'est le moment où, et ça peut être dur à entendre, hein, j'en dis qu'on vient pas, mais peut-être que c'est le moment où l'enfant va balancer un truc qui se passe pas bien dans la famille.
Oui.
Bah oui, peut-être que une maman, elle sera peut-être plus douce, elle travaillera moins, elle fera plus de câlins.
Oui.
Ah.
Ouais, c'est, okay. En fait, il s'imagine le rôle. C'est dans l'imaginaire.
Il s'imagine le rôle dans peut-être ce qu'ils ressentent comme étant en train de manquer. Et bien malin seraient les familles totalement omnipotentes qui ne provoquent aucun. On peut être moins en forme psychiquement, on peut être avoir un rush de boulot, on peut avoir plein en fait de circonstances qui font que les enfants ont besoin de quelque chose. Et donc en fait là, bah, c'est les enfants à qui on dit et à qui on pose tout le temps la question, ah bah il te manque un parent, et bah, ils vont se dire peut-être que c'est ça en fait qui manque. Et donc au lieu de formuler le il manque des câlins ou il manque des discussions ou il manque un truc, ils vont formuler de il manque un parent. Et donc c'est d'aller chercher derrière en fait, d'aller chercher derrière le OK, qu'est-ce qui te manque en fait? Dis-moi, et d'aller questionner. Et du coup, faut pas avoir peur des réponses. Parce qu'en effet, les enfants peuvent dire des trucs qui font mal au cœur, quoi. C'est vrai, hein. Je veux dire, il y a un moment où c'est vrai, tu vois. Il y a un moment où ils peuvent te dire, bah, t'as pas été cool, tu cries beaucoup en ce moment, t'es fatigué, t'es pas disponible, tu joues pas avec toi, tu vois pas beaucoup. Mmh. Bah oui, en fait, mais ça, c'est dans toutes les familles, hein. Clairement, les enfants peuvent dire des choses qui font mal au cœur parce que, bah, il y a des fois où ils pointent, en effet, des manquements, entre guillemets, des failles, des vulnérabilités qu'on peut avoir. Et ça, c'est pas inhérent aux familles, c'est juste inhérent à l'humanité dont on fait tous preuve, quoi.
Non, mais ça se vérifie clairement. Moi, je le constate aussi au quotidien. Les filles, de temps en temps, elles ont tendance à me dire que je suis pas dispo, que machin, que truc. Enfin, ils sont pas tendres, hein, finalement, les enfants avec nous, et ils sont sans filtre. Donc, ils nous disent ce qu'ils ressentent. Et des fois, c'est vrai qu'ils prennent des détours. Mais la question que je me pose, moi, c'est est-ce qu'un enfant... Parce que sur un ado, bon... Je pense qu'il y a des fois où ça peut aussi être fait pour blesser, pour atteindre, tu vois, pour faire réagir. Sur un tout petit, je pense que c'est plus la société qui a déjà normalisé son raisonnement.
Oui, mais même ça peut être sur un ado, ça peut aussi être déjà une manière de faire... Alors, même pas une question de blesser, hein, mais genre juste de montrer, en fait, ce qui lui manque dans son quotidien à ce moment-là.
Ouais.
En fait. Et d'évoquer, en fait, ce qui lui manque, et donc de cristalliser, en fait, sur un rôle ce qui lui manque. Parce qu'en effet, comme la norme a été intégrée, et que les gens vont facilement sauter sur cette norme, hein. Je veux dire, il y a plein de gens qui, en écoutant ça, vont dire « Bah oui, tu vois, ça y est, il manque un parent, et c'est pour ça qu'ils le disent. » Non, mais en fait, non, en fait. Je veux dire, parce que les parents, ils sont pas tous omnipotents non plus, que ce soit hommes et femmes et complémentarité, ben non, en fait, ça fonctionne pas. C'est pas vrai, en fait. Et peut-être que ça peut être intéressant, en fait, de discuter, donc de voir un peu ce qu'il y a derrière, et de questionner, de dire, OK, en fait, dans ce que j'entends, c'est pas tant d'un papa que tu manques, même si je comprends que, par rapport à la norme, bah oui, c'est vrai que ça peut être très étrange pour toi de pas avoir forcément le schéma normatif que tu vois chez tout le monde. En fait, ce que tu vois, c'est ce côté, j'aimerais avoir plus de temps, plus de disponibilité ou d'activités différentes, etc. Comme tu peux éventuellement le voir, en effet, avec des copains qui font quelque chose de spécifique avec un des deux parents.
Mmh.
Et donc, c'est ça, peut-être, qui te manque, des choses spécifiques. Et de questionner, en fait, aussi le rapport à la norme. Après, on fait pas tout en même temps. On peut pas commencer à discuter les besoins d'un enfant, plus après le rapport à la norme, etc. Après, ça veut dire aussi que peut-être, dans une autre discussion, dans un autre temps, avec d'autres ressources, on peut discuter le rapport à la norme et ce que ça implique, en fait, d'avoir des parents, d'être en famille mono, homo, ou hétéroparentale.
Mmh. Mais c'est vrai que tu le soulignes, hein. Il faut avoir d'autres ressources et souvent quand on est un peu bousculé quand on entend ce genre de choses, donc peut-être prendre un peu de recul, ouais. Avoir le temps de souffler pour discuter apaisé.
C'est ça, et j'ai tendance à dire surtout quand on se retrouve face à un... Par rapport à quelle que soit la question, hein, alors souvent c'est les questions qui a trait à la sexualité, et peut-être aussi par rapport du coup là à la conception, par rapport aux normes de genre, par rapport à la composition familiale, c'est des sujets qui sont assez fondamentaux, qu'on réfléchit mais qu'on a tendance à pas prendre trop le temps de poser. On se dit, oh là là, il pose une question, il dit un truc, il faut que j'y réagisse immédiatement. J'ai tendance à dire, la réaction immédiate c'est d'écouter.
Mm-hmm.
Okay, les réponses à y apporter, alors le mieux c'est de se dire, ok, en fait là je sais pas trop quoi te répondre, je veux bien t'écouter, mais je sais pas comment te répondre précisément. Et si tu veux, on en revient quand j'ai pu mettre ça au clair dans ma tête. Et puis peut-être quand j'ai pu trouver des ressources.
Uh-huh.
Il y a peut-être ça aussi qui peut être posé. Ouais. Pareil, peut-être que ça peut faire, ces questionnements-là peuvent faire émerger les petits points, comme j'en parlais au début, les petits points d'inconfort qu'on a la tête sur lesquels on n'est pas forcément mis du doigt. Et alors peut-être soi-même se dira, ok, il y a peut-être des points dans lesquels je suis pas très à l'aise. Qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que j'ai d'autres personnes avec qui je peux en parler, d'autres familles parentales, d'autres personnes ou d'autres ressources qui peuvent m'aider en fait à pouvoir mettre un peu au clair toutes mes pensées et à pouvoir revenir vers mon enfant avec des mots plus posés, avec une pensée qui est plus claire, quoi.
Ouais, clairement. Mais c'est vrai que c'est judicieux. Je suis comme ça. Hein. J'ai tendance à vouloir répondre tout de suite à la question.
Ouais, c'est classique, hein. Tous les parents sont comme ça, un peu pris de court, quoi.
Ouais, c'est ça.
Un peu pris de court à répondre à un truc hyper frambattant et genre, attends, zut, si je réponds pas, qu'est-ce que ça va être? Mais je trouve que c'est important de pouvoir dire, ok, en fait, là, je sais pas comment te répondre, en fait, pour que ce soit clair. Donc, en fait, je vais prendre un peu le temps de te répondre. Mais si tu veux, on peut discuter de toi ce qui te met dans l'inconfort, là. On discute de ce qui te met dans l'inconfort. Et la prochaine fois, je viens avec le même sujet et on en discute de manière à ce que moi, je puisse t'apporter une réponse.
Mm-hmm. Ouais, non, c'est judicieux. C'est vrai que souvent, en plus, sur ce type de sujet, on se dit, si on répond pas tout de suite, on crée du flou. Et si on crée du flou, ben, on rentre dans le je ne dis pas ou je camoufle. Alors qu'en fait,
ouais. Alors qu'on peut juste dire, ouais, qu'on a juste le temps, en fait, de chercher des réponses qui sont adéquates et qui permettent de faire un truc, une espèce de socle commun après où on n'est pas obligé d'y revenir. Et en fait, ce qui génère le flou, c'est pas tant que quelqu'un dise, attends, en fait, là, je vois ce dont t'aurais besoin, mais je me rends compte que j'ai pas de quoi. Comment te répondre précisément. Donc, je vais chercher comment te répondre précisément. Et après, comme ça, il n'y a pas besoin de réinventer l'histoire 3 fois.
Ouais, ouais.
Ou de reformuler 10 fois. D'avoir l'impression qu'il y a des détails qui s'ajoutent au fur et à mesure. C'est ça qui est un peu bizarre, en fait. Alors que quand tu dis, OK, attends, là, je sais pas trop, mais je reviens vers toi avec plus de détails plus tard, juste, OK, d'accord. Donc, en fait, mon parent, déjà, n'est pas infaillible. C'est-à-dire que moi, j'ai pas besoin de l'être. Très bien. Et, on peut prendre le temps de se poser, en fait, et de réfléchir différemment et pas genre juste, OK, d'accord, il faut que je sois directement, hyper efficace, hyper opportun tout de suite.
Ouais, c'est ça. Et puis, c'est vrai qu'un parent n'a pas réponse à tout, au même titre. Enfin, personne n'a réponse à tout.
Bah non.
Et...
Bien sûr que non.
Ouais.
Et puis, ça va vraiment dépendre de toutes les compositions familiales, quoi. Par exemple, moi, en tant que famille monoparentale, j'ai pas les mêmes sujets de discussion que des parents d'un couple homo qui aurait fait une GPA.
Oui, bien sûr.
En fait. Donc, forcément, ça va être forcément différent et les réponses vont être différentes. Et tous les enfants peuvent pas être éveillé à tout, en fait.
Complètement.
Et ça m'a tué d'ailleurs un jour, je raconte pour la blague, mais c'était début janvier, je montre à ma fille une photo d'un mariage homo, lesbien, tu vois. Et elle voit les deux mariés, deux magnifiques mariés, qui disent, mais deux femmes se marient ensemble? Dans ma tête, j'étais genre, oui. Mais je savais pas que c'était possible. Là, dans ma tête, je me suis fait, ok.
Ça n'a pas l'air qu'on dit.
C'est pas possible. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors, moi, oui, en effet, je suis lesbienne, je ne suis pas en couple, donc elle ne voit pas sa mère avec quelqu'un, donc elle n'est pas confrontée à ça. Et là, je me suis dit, aïe. Ok. Alors, on en parle régulièrement, mais manifestement, les représentations, ça, c'est pas, c'est, il en manque, hein, manifestement.
On y est pas encore.
Mais tu vois, alors que toi, forcément, tes filles, elles auront jamais ce genre de réflexion-là.
Pas celle-ci, effectivement.
Pas celle-ci, c'est ça, voilà. Mais en auront une autre, tu vois, de dire, bah tiens, un bébé qui naît dans le ventre de quelqu'un d'autre, avec les gènes de encore quelqu'un d'autre et les gènes d'un des deux papas. Ah ok, c'est un peu élaboré quand même comme truc. Et c'est un peu élaboré, oui. Tu vois. C'est vrai, tu vois. Ça paraît, si tu veux, globalement, quand t'es enfant, c'est pas le genre. Le schéma familial que tu imagines, fait, et que tu te construis dans ta tête, et ben en fait aujourd'hui ben, on peut le faire et c'est trop cool de leur en parler et de pouvoir donner tous les possibles qu'on a aujourd'hui, ouais. En fait, et c'est trop chouette.
Ouais, clairement, c'est hyper intéressant. Ça m'apporte moi personnellement plein de réponses et franchement, je me suis même pas posé certaines. Enfin, tu vois, là, je me suis jamais dit, je prends le temps, je réfléchis à des réponses et c'est vrai que mes filles. Elles reviennent régulièrement à la charge, tu vois, et elles appuient là où j'ai pas été claire, tu vois. Bah, et elles vont chercher les plus, quoi. Elles vont chercher à savoir et après, elles vont revenir recreuser pour être sûres que je vais redire la même chose.
Ouais, c'est ça. Et c'est hyper intéressant parce que c'est comme ça qu'elles intègrent les choses. Ouais. Faut pas oublier qu'on apprend par la répétition.
Ouais, hein. Tout à fait.
Et c'est pour ça que ça peut paraître très chiant d'avoir des enfants qui font toujours le même jeu, les mêmes trucs, les mêmes questionnements et tout ça, mais c'est comme ça qu'on intègre les choses, en fait, hein. Clairement. C'est-à-dire, et même nous, hein, on fait un truc une fois. Ben en fait on va le faire une fois, on va se dépatouiller, on va y arriver plus ou moins, hein. Pense à la première fois que t'as déroché un podcast et monté un podcast.
Ouais.
Imaginons que t'arrêtes de le faire pendant 10 ans.
Ouais.
Ben dans 10 ans, alors peut-être que t'auras quelques souvenirs, mais tu vas à nouveau galérer.
Ouais, ouais.
C'est par la répétition qu'on acquiert les choses et qu'on intègre le truc. Et en fait c'est pareil pour tout le monde. Les enfants c'est pareil, que ce soit des intégrations émotionnelles, que ce soit les intégrations par rapport à des schémas en fait comme ça normatifs ou des schémas de vie ou des trucs, en fait c'est en repassant dessus et en repassant toujours sur le même chemin, et ben en fait ça rentre, ça finit par rentrer et un jour en fait c'est ce qui leur permet aussi de fonder elles-mêmes leur discours par rapport à l'extérieur.
Oui, oui, tout à fait.
Parce qu'un jour tu vas les entendre balancer à leurs potes exactement ce que tu leur as dit.
Ouais, c'est vrai que ça se vérifie.
Bah ouais, clairement.
Ça se vérifie.
Tu vois. Et c'est pour ça que, en tant que parent, on a beaucoup d'influence sur nos enfants, hein. Il n'y a aucun doute à avoir sur la question, quoi. C'est, les enfants, ils vont te rebalancer exactement ce que tu leur as dit.
Ouais.
Donc, ça veut dire que quand il y a une zone de flou, eh ben, en fait, les autres, ils sautent à pieds joints dans la zone de flou. Et si tes enfants n'ont pas les ressources pour pouvoir répondre à cette zone de flou, eh ben, soit ils vont venir te poser la question.
Mm-hmm.
Et à vous, après, de clarifier encore les zones de flou pour permettre aux enfants eux-mêmes d'intégrer leur histoire, en fait, et de les pouvoir l'évoquer de manière très claire et de pouvoir avoir toutes les réparties nécessaires. Mais ça se construit au fur et à mesure, tu vois. C'est en
tâtonnant.
Ouais, c'est en tâtonnant et puis c'est en 10 ans,
oui,
c'est en 10 ou 15 ans
oui,
que ça se passe,
sûr.
Tout ça, tu vois, parce que à chaque âge vient des questionnements différents, oui. Et puis un jour des machins, des trucs, et puis il y a des enfants qui seront issus d'un don anonyme, d'autres pas anonymes, ils vont peut-être pouvoir se confronter sur leur point de vue, et on va encore avoir des questions dans les années à venir, hein, de « ok, d'accord, moi j'ai pas parlé avec mes potes, eux ils ont accès à leur donneur, nous pas, pourquoi, comment,
ouais,
qu'est-ce qu'on fait ?»
aussi.
Et Dieu sait, et en vrai, hein, on sait pas comment ça va se passer, parce que aujourd'hui il y a des tests génétiques, etc., ça m'étonnerait pas que la plupart des gamins issus de dons fassent des dons génétiques pour voir un petit peu...
Bah oui, bien sûr.
Tu vois.
Ceux qui n'ont pas accès à leur donneur, ouais.
Ouais. Et même ceux qui y ont accès, hein,
ouais.
Parce que c'est pas parce que tu sais si tu y as accès que tu sais pas quels sont les autres enfants issus du même donneur,
ouais.
Tu vois, donc moi je pense qu'il y aura un truc comme ça où même le donneur anonyme, il y aura des trucs, des liens qui vont se tisser peut-être entre les enfants d'un même donneur ou des trucs comme ça, en fait, et je pense que c'est ça ce qui va se passer dans l'avenir. Et concrètement ça va générer des déceptions en disant oula, ok, cette personne a la moitié même que moi, bah écoute, je m'y reconnais pas. Ou à l'inverse, ça va être super, ils vont se dire oh putain, cette personne elle est trop cool, en fait, on a plein de points communs.
Ouais.
Et c'est ce truc là aussi qu'il faut réussir à dépasser des appréhensions qu'on peut avoir de départ, c'est de se dire en fait, ce qu'on attend, ce qu'on va voir, là j'en imagine même pas 10%.
Oui, c'est sûr.
On sait pas vraiment ce qui va se passer. Et c'est pas grave, en fait.
Non, c'est pas grave.
Le tout c'est de se dire ok, il faut avoir juste l'esprit que ça va se passer, il va y avoir des trucs inédits.
C'est ça.
C'est ça. C'est juste pour se dire, ok, il va se passer des trucs spéciaux et auxquels qu'on n'avait pas anticipé, et ben on est prêt à le recevoir.
Mm-hmm. Ouais, c'est clair, voilà. C'est clair. Et puis mine de rien, il faut pas oublier que leur famille, ça restera la famille dans laquelle ils ont été élevés et avec qui ils ont vécu la plus grosse partie de leur vie, quoi.
Mm. Tout à fait. Les gènes dans tout ça fait quand même, c'est très 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 minoritaire.
Oui, complètement.
Parce qu'il y a les gènes et puis il y a l'épigénétique.
Ouais.
Alors là, l'épigénétique, c'est tout ce qui se passe à partir du moment où l'enfant est implanté dans l'utérus.
Ouais.
Quoi. Donc la part des gènes est quand même très affaiblie. Et en fait, moi, j'ai tendance à dire, imaginons même que nos enfants, alors parce que je sais que toi aussi, c'est un don anonyme, hein,
ouais.
Te rendent compte que le donneur a donné d'autres enfants, qui prennent contact les uns avec les autres, etc. Et ben si ça peut agrandir leur famille de cœur aussi, ben pourquoi
mais
pas
oui, complètement. Complètement.
Tu vois, je veux dire, les liens, voilà, il y a des gens avec qui on crée des amitiés et qui c'est très fort. Et bien, là, s'il y a un lien qui se fait de fait en plus avec ça, bah, très bien, en fait. Ça donne des points communs et des manières de communiquer sur son histoire, etc. Et je suis sûre et certaine que forcément, il y aura des rassemblements de jeunes qui sont issus de dons pour parler de leur histoire, pour discuter ensemble, etc. Et on va pas être cloué au pilori. Comme ce que dans la société générale, on essaie de nous faire
penser. Ouais, non, mais clairement. Et puis, des rassemblements de jeunes issus de dons, il y en a déjà, et c'était pas des dons pour des couples homosexuels.
Mais c'est ça. Et alors qu'à l'époque, on faisait mentir les parents. Ouais. Donc c'est pour ça que c'était hyper compliqué par les parents. Alors qu'aujourd'hui, ben, d'autant plus là, c'est le sujet du podcast, mais on ment plus aux enfants. Donc ils savent.
Ouais.
Donc en fait, il n'y a pas de raison qu'ils nous en veuillent particulièrement, les enfants, d'avoir fait ces choix-là.
Ils n'auront pas toute cette déconstruction à faire qui je pense, est très énergivore et très sollicitante pour l'émotionnel.
Oui, absolument. Tout à fait.
Eh bien, super. Écoute, je te remercie beaucoup, Natacha. Je pense qu'on a évoqué pas mal de points déjà. Ça va nous permettre de mûrir pas mal notre réflexion.
Bah écoute, avec plaisir.
Et puis du coup, je te retrouve d'ici un petit mois un petit mois, je pense, pour commencer à répondre aux questions de nos auditeurs.
Ok, et bah écoute, super, avec grand plaisir et à tout bientôt.
À tout bientôt. Au revoir, Natacha.
Au revoir.
Je vous propose de retrouver Natacha sur son compte Instagram, @lacuriositébienveillante, pour aller voir et écouter et même regarder des thèmes qu'elle peut aborder au sujet de la parentalité. Et je vous suggère que nous nous retrouvions sur le compte Instagram du podcast pour pouvoir, justement dans la fameuse boîte à questions dont je vous parle au début de l'épisode, nous suggérer des thèmes de futurs épisodes. Je suis sûre que vous avez plein de questions à nous poser puisque vous m'en posez régulièrement en message privé. Ainsi, on pourra vous apporter des réponses qui seront un petit peu plus qualitatives que ma seule expérience. Si vous souhaitez soutenir le podcast et que cet épisode vous a plu, vous pouvez le partager, c'est ce qui va me donner le plus de visibilité. Vous pouvez aussi le noter sur vos plateformes d'écoute, Apple Podcast et Spotify maintenant. En réalité, vous notez plus le podcast au global que l'épisode en lui-même. Et enfin, vous pouvez me laisser un petit commentaire, soit sur le compte Instagram du podcast, soit directement sur votre plateforme d'écoute. Je vous remercie encore une fois pour votre soutien. Et je vous retrouve jeudi prochain pour un nouvel épisode du Fil Rouge du podcast Les Enfants vont bien. Josephine, even when my soul's an amputee, and my bleeding heart is sinking in the lake inside my chest, so I grab what I can cling to and I leave behind the rest. I'll hold my hand, I'll hold my breath. There's nothing in this world we really own. Jesus Christ, if you tore my heart out, the only thing I'd feel was less alone. Now hold my hand and take my breath and leave behind the things you'll never own. Jesus Christ, please tear my heart out. Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. Hey, folks, it's Mark Maron from WTF. I've been talking to all kinds of famous people in my garage since 2009, including a sitting president. You know, I don't imagine you were flying in here on the chopper thinking like, you know, I am nervous about Mark. No, I wasn't.
Okay, well, that's good.
That would be a problem.
It would be a problem.
If the president was feeling stressed about...
Coming to my garage.
Coming to your garage.
And now there's even more WTF when you subscribe to the full Marin to get weekly bonus content and all WTF episodes ad-free. Listen to WTF wherever you get podcasts and subscribe to the full Marin at go.acast.com/WTF.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.